diciamo, le sexuate, le dovine, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre, seulement en soumissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. Logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est l'écho des Garrigues à Montpellier, Plein Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, mais aussi sur le site OC Libertaire et le site Le Chat Noir 51. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Oui, alors on va commencer par la reproduction d'une émission qui a lieu sur Lyon à Radio Canu concernant ce qui s'est passé à Toulouse, les arrestations, les quatre personnes qui sont incarcérées aujourd'hui, actuellement encore. Ça dure depuis 3 semaines, bientôt, peut-être même un peu plus. Donc, et puis à la fin, on vous parlera de la manifestation qui a eu lieu ce week-end à Toulouse, dont on vous avait parlé la semaine dernière.
Voici ce qu'en dit la presse. Le 5 juillet 2011, à La Belge, en banlieue toulousaine, une dizaine de casseurs, très organisés, vêtus de noir, cagoulés et gantés, ont fait irruption dans le bâtiment de la direction interrégionale de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Ils ont saccagé des salles et tagué des slogans sur les murs. Des seaux remplis d'excréments humains ont été déversés sur les ordinateurs. Cette action a eu lieu 2 mois après une révolte dans l'EPM, ou établissement pénitentiaire pour mineurs, ou encore prison pour mômes, de Lavore. Les inscriptions ainsi que des tracts laissés sur place montraient une solidarité avec les enfants enfermés. Le 15 novembre dernier, 6 personnes, âgées de 21 à 30 ans, ont été interpellées dans des squats et appartements de Toulouse. 5 ont été mises en examen et 4 d'entre elles ont été placées en détention pour des faits de dégradation et de violence. Le parquet s'est refusé à préciser les conditions dans lesquelles les enquêteurs sont remontés jusqu'au suspect. Selon une source proche de l'enquête, ces militants d'ultra-gauche, chômeurs ou étudiants, ont agi par conviction, nous précise le Figaro, du 17 novembre.
Diana, Pénélope, vous êtes membre du comité de soutien aux inculpés du 15 novembre à Toulouse. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire ce qui s'est passé le 15 novembre à Toulouse?
Alors, le 15 novembre à Toulouse, à partir de 6h du matin, on a appris que dans plusieurs appartements, maisons, lieux occupés, lieux loués dans la ville, à plein d'endroits différents, il y avait des gendarmes qui débarquaient pour arrêter des gens, perquisitionner les lieux, aussi arrêter des gens, les amener à ce qui était censé être leur domicile pour perquisitionner à un autre endroit, ce qui fait qu'au total, dans la matinée, il y a eu 6 endroits perquisitionnés. Et 6 personnes arrêtées, ouais, c'est ça. Et aussi un endroit qui a été perquisitionné le lendemain, qui était un autre endroit qui concernait une personne inculpée. Donc, ouais, c'est ça qui se passe le 15 novembre. Ça fait une centaine de gendarmes, au moins, on pense, mobilisés sur la ville pour défoncer des portes d'entrée de maison. Du coup, ce qu'ils ont fait concrètement, c'est que non seulement ils ont arrêté des personnes apparemment qu'ils étaient venus chercher en les ciblant, ils ont profité pour contrôler les identités de tout le monde, contrôler l'identité d'une famille étrangère et l'arrêter, Alors même qu'en plus elle a été relâchée parce qu'elle était en cours de régularisation. Et ça avec tout ce que ça a de violence physique, matérielle, psy et tout.
Ils faisaient ça pourquoi? Ils cherchaient quoi?
Ben, ils cherchaient des gens qu'ils accusent d'avoir participé à une action qui a eu lieu dans les locaux de la PJJ de la Belge en juillet, où il y aurait eu, je crois, une quinzaine de personnes qui seraient rentrées donc, dans ces locaux, auraient tagué des slogans contre les EPM et contre l'action de la PJJ dans les EPM, donc les prisons pour mineurs, déverser un seau de caca et une légère bousculade, de ce qu'on en sait en tout cas.
Et des tracts qui auraient été laissés aussi.
Voilà. Et des tracts du coup qui visiblement parlaient de l'action de la PJJ.
Alors, on va revenir plus tard à cette action et aux raisons de cette action, mais dans un premier temps, là, les gens qui ont été arrêtés, ils sont devenus quoi après?
Eh ben, il y en a 4 qui sont placés en détention préventive, une personne qui est en contrôle judiciaire et une autre personne qui est placée comme témoin assisté. En gros, témoin assisté, c'est on n'a pas assez de charges contre toi pour te mettre en examen. Mais quand même, tu restes à disposition du juge d'instruction. Donc le mot assister, c'est aussi parce que du coup, tu peux quand même te faire assister d'un avocat et avoir accès à une partie du dossier de l'instruction.
Et du coup, ils sont inculpés de, je pense, tous les mêmes chefs d'inculpation. Le premier, c'est participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Le deuxième, c'est dégradation de biens. Et le troisième, c'est violence en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité. Enfin,
d'ITT.
D'ITT. Et voilà, ça c'est les chefs d'inculpation qu'ils ont tous sur le dos. Depuis, notamment, il y en a 4 qui sont en prison à Seis. Donc on sait aussi que les conditions, ben, comme la plupart des détenus, c'est que dans les premiers temps, la plupart, ils n'ont pas eu accès aux vêtements qui leur étaient fournis. Au mandat qui leur a été envoyé, etc. Enfin, évidemment, la communication, les demandes de parloir qui n'aboutissent pas pour l'instant, donc en plus avec un maintien bah, de leur isolement encore plus fort. Quoi.
C'est un peu hard, non, de mettre des gens en détention préventive pour du coup, apparemment, quelques tags, même à l'intérieur de locaux, et un peu de caca renversé.
Ben, ouais, c'est hard, et en même temps, j'ai l'impression que ça s'inscrit vraiment... dans une logique en ce moment de répression hyper forte de quelles que soient un peu les actions menées, dès qu'elles sortent un peu du cadre de la manifestation déclarée en préfecture, avec une petite sono et des trucs un peu comme ça. Enfin, à Toulouse, en tout cas, il y a plusieurs exemples ces derniers temps, comme on peut parler des étudiants qui ont été inculpés, des étudiants de la fac du Mirail, qui ont été condamnés l'année dernière à des lourdes peines de sursis et d'amende parce que ils étaient accusés lors d'une occupation de la maison de la recherche pendant un mouvement étudiant d'avoir volé des petits fours.
Il y a aussi...
Et des dégradations, je crois. Mais enfin, autant dire, pas grand-chose.
Ouais. Comme l'année dernière pendant le mouvement des retraites où deux personnes elles se sont faites interpeller, pareil, à leur domicile, super violemment et tout. Et condamné à des peines de sursis pour un tag. Du coup, il y a vraiment cette question-là de comment toutes les actions, elles sont tout de suite qualifiées de violentes ou de je sais pas quoi, alors que la question en plus là, c'est vraiment des graffitis, des prises de parole qui sortent du commun, des lancers de tracts, des. Enfin, voilà quoi. Des modes d'action qui, quand on en parle aux gens là, ces derniers temps, rappellent à tout le monde, j'ai l'impression, le « Ah, ça s'est passé dans telle lutte de chômeurs, ah, ça s'est passé dans telle grève », et que c'est toutes les histoires de lutte qui portent ces modes d'action-là, et puis qu'aujourd'hui, pour ces actions-là, on part en préventif, quoi.
Pour revenir à cette action précisément, on va remonter au mois de mai dernier, au mois de mai 2011, où il y a eu une révolte à l'EPM, donc la prison pour mineurs à Lavaur, à côté de Toulouse.
Ben, du coup, il y a eu cette mutinerie. Un peu les seules infos qui passaient, c'était par la presse, et notamment aussi par les communiqués des éduques PJJ qui bossent du coup à l'intérieur, qui, suite à cette mutinerie, se sont placés en grève immédiatement, ont utilisé leur droit de retrait pour laisser toute la place aux ERIS. Du coup, les ERIS, ce sont les équipes régionales d'intervention spéciales, qui sont des spécialistes pour venir mater les révoltes en prison. Et du coup, dans leur communiqué, les EDUPJJ parlaient d'enfants irrécupérables qui n'avaient pas leur place dans ces lieux soi-disant éducatifs, parce qu'ils étaient en plus aux côtés d'enfants réinsérables, et donc ils empêchaient la réinsertion de ces enfants-là. Ils parlaient beaucoup aussi de leurs conditions de travail qui étaient tellement difficiles, qu'ils demandaient plus de moyens pour leur sécurité.
Qu'ils demandaient une coordination aussi entre la formation d'un personnel censé assurer la protection de la jeunesse et une formation conjointe avec le personnel de l'AP, donc les matons, eux chargés du maintien de l'ordre et de la répression, de faire converger un peu ces deux métiers, avec tous les enjeux de pouvoir qu'il y avait aussi entre les deux corporations qui se jouaient à ce moment-là et qui s'est vraiment joué, on avait l'impression, de ce qui transparaît, c'est de l'extérieur, sur le dos justement des mineurs enfermés. Il y avait une espèce de surenchère pour en faire des monstres irrécupérables et justifier que tout le monde va y tirer la couverture de plus de moyens, plus de reconnaissance, plus de primes de risque ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment cette dynamique-là, à cette époque-là. Et avec, du coup, ce qu'on constate, ce qui était visible, c'était l'absence de communication, l'impossibilité d'avoir des informations. Et finalement, ça donnait l'impression que les établissements pour mineurs, ils sont encore plus enfermants et isolants que n'importe quelle maison d'arrêt pour adultes.
C'est quand même un peu fou que des EDUPJJ parlent d'enfants irrécupérables. C'est que du coup, s'ils sont irrécupérables quand ils sont déjà en prison, leur place, c'est quoi? C'est les fours?
On se demande, mais en gros, eux, ce qu'ils disent, c'est que non. Dans les autres prisons, il y a des prisons pour adultes, il y a des quartiers pour mineurs. Et du coup, en gros, ils disent que leur place, elle est plutôt là, puisque eux, ça sert à rien d'avoir une action qu'ils appellent, eux, éducative. Je mets plein de guillemets à ce mot-là. Et que juste, voilà, on devrait juste les envoyer dans des tôles qui y pourrissent et qu'il n'y a rien à en faire.
La PJJ intervient pas dans les quartiers pour mineurs des prisons?
Non. C'est un peu la particularité des prisons pour mineurs, c'est que c'est une action conjointe et de l'administration pénitentiaire et de la PJJ.
Avec aussi l'intervention de certains enseignants.
Ouais.
D'une certaine catégorie de personnel qui justifie des spécificités de la PJJ. Qui permettent, j'imagine, de faire entrer la législation française dans un cadre qui se voudrait pas que répressif en matière de préoccupation autour de la délinquance des mineurs, etc. quoi. Donc vraiment comme un espèce de vernis qu'on met pour justifier l'enfermement des mineurs. Et où quand même, comme à chaque fois en plus, ça a été ça, j'ai l'impression, l'histoire de la construction des EPM, c'est-à-dire il y a des centres éducatifs fermés, renforcés, c'est pas suffisant, hop, on fait des EPM. Au bout de quelques années, les EPM, ils ont 6 ans. On va dire, ah ben c'est encore pas suffisant, il faut augmenter, enfin il faut
passer
la barre plus haut, et aujourd'hui ils parlent d'encadrement militaire.
Les EPM ils ont même pas 6 ans, ils en ont 4.
Oui, c'est le projet, enfin c'est en 2006 qu'ils ont été votés, voilà.
Et quand même depuis la construction des EPM, c'est des cocottes minutes. J'ai pas les chiffres là, mais il y a eu plusieurs tentatives de suicide, d'évasion.
Le premier OPM qui est ouvert, c'était en juin 2007 à Mézieux, à côté de Lyon. Et il y a eu un premier suicide dans les mois qui ont suivi. Il y a eu une première révolte dans les 15 jours qui ont suivi. Il y a cette mutinerie, il y a cette réaction de la PJJ. Et là, les gens s'organisent un peu en solidarité avec les gamins qui sont à l'intérieur.
Oui, c'est ça.
Ça se passe comment?
L'idée un peu qu'on... On se dit à ce moment-là, c'est ok, il y a plusieurs un peu objectifs. Déjà, le truc de. On a zéro info, les seules infos qu'on a, c'est par la presse et par la PJJ, et du coup, autant dire qu'on n'a pas tellement confiance en ce qu'ils disent. Du coup, on va essayer d'aller à la pêche aux infos. Du coup, là, il y a des personnes qui se pointent au parloir pour pouvoir discuter avec les familles, pour essayer d'aller glaner de l'info, quoi. Là, on voit bien que ça ne le fait pas trop à la paix, hein. Puisque très vite, ils appellent des gendarmes, qui contrôlent systématiquement, qui plus ça va, plus ils nous repoussent plus loin de l'EPM, et autant dire que c'est hyper compliqué de rencontrer les familles, déjà que le contexte n'est pas évident. Là,
qui mettent également la pression aux familles pour qu'ils ne parlent pas à des gens qui, quand ils sortent du parloir, Donc avec le danger qu'il pourrait y avoir pour les familles de se faire refuser des parloirs, etc., quand ils viennent en visite. Ça montre aussi vraiment cette histoire de comment quand c'est des mineurs qui sont à l'intérieur, il y a quelque part la responsabilité des proches et des parents qui est directement mise en jeu pour que eux aussi finalement on puisse les infantiliser ou leur mettre la pression ou les culpabiliser assez pour les menacer de trucs si jamais ils tiennent pas droit vis-à-vis de la paix, quoi, puisque c'est leur enfant qui est là-dedans. Finalement, ils y sont peut-être pas pour rien. Ça paraissait assez fort aussi.
Vous avez quand même réussi à rencontrer des familles?
Ouais, il y a eu des rencontres avec des familles, mais qui sont devenues de plus en plus compliquées, qui justement du coup permettaient de savoir un petit peu plus, ne serait-ce que quelles étaient les conditions en temps normal de la détention à l'EPM, et puis particulièrement ce qui s'était passé, notamment suite à la mutinerie, qu'ils avaient été tous mis à l'isolement dans leur chambre cellule. Ouais, l'information qui venait des familles, c'était vraiment autour de les conditions dans lesquelles ils vivaient après cette mutinerie-là, là, qui avait forcément, enfin, sur lesquelles, collectivement, ils étaient tous hyper réprimés à l'intérieur. Et puis, sur aussi cette info que c'était plutôt suite à une demande de transfert qui avait été refusée, et à des demandes en plus qui restaient dans le cadre de ce qu'on est censé pouvoir obtenir dans le cadre de la détention, qui était systématiquement refusé à certains détenus, qu'il y avait des détenus qui avaient du coup choisi d'autres modes de se manifester à l'intérieur. Donc là, ça coupe un peu avec le discours irrécupérable, sauvageon, etc., que tenait le maire de Lavore, la PJJ, à ce moment-là, quoi.
Juste pour citer le maire de Lavore, parce que j'ai trouvé ça vraiment horrible, il a dit, en parlant de ces gamins, que c'était comme des chevaux sauvages à qui on n'avait jamais réussi à mettre une selle. Et du coup, l'autre idée, justement, aussi de ce collectif, c'était d'amener une autre parole que hyper dénigrante de ces gosses à l'intérieur, et amener un message de solidarité, essayer d'amener un message de solidarité à l'intérieur, ce qui n'a pas été trop possible, et aussi à l'extérieur, amener un autre discours que celui-là.
Ce collectif, il est devenu quelque chose, il existe encore, il a...
Non, ce collectif, je pense que justement, il a trouvé vachement ses limites dans l'impossibilité de faire du lien, en fait, avec l'intérieur. Et après, la question de... qui, à mon avis, est plus générale pour toutes les personnes qui, depuis longtemps, là, se sont posées la lutte autour des prisons, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait quand on sait si peu de choses, etc. Mais par ailleurs, il a donné des gens qui, d'un côté, ont fait des émissions de radio, ont écrit des choses, sont renseignés sur ces histoires-là. Mais voilà, quelque chose de plus, un discours de l'extérieur sur l'enfermement des mineurs, quoi. Mais vraiment, le gros point, ça a été aller à deux personnes tranquillement, à l'heure des parloirs, à l'heure de la fin des parloirs, pour voir des familles et demander comment ça va et s'il y a besoin de choses ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elles auraient envie de communiquer d'une autre manière? Ça a été vraiment rendu impossible par la gendarmerie là-bas, quoi. Et ça a été vraiment ce qui aussi a précipité la fin de cette initiative-là, quoi. Par ailleurs, plus tard au cours de l'été, on apprend, notamment par la Dépêche, là, qui en avait fait assez gros titres, il me semble, qu'il y a une action qui est faite à la PJJ, au local de la PJJ qui situe à La Bèche, donc aux alentours de Toulouse, pour dénoncer les pratiques de la PJJ autour de l'enfermement des mineurs, son action en particulier dans les EPM et à celui de Lavore. Donc comme ça a été dit, tractage, un seau de caca, je sais plus qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est une action qui est très très vite décrite comme, un commando ultra-violent, enfin quelque chose... qui sort complètement de l'ordinaire et tout ça, qui est vraiment, on voit aussi comment la presse, en refaisant la recherche des articles sortis à l'époque et tout ça, au moment des arrestations de novembre, comment la presse a fait ses choux gras de parler de mouvance ou de jeunes super énervés, violents, etc., pour construire une figure un peu comme ça, politique, hyper à part, quoi. Et puis la fois où on entendrait parler de cette action, c'est le jour où finalement ils viennent arrêter plein de gens dans leur lit pour les accuser de ce qui s'est passé ce jour-là, quoi.
Avec pareil dans la presse, du coup, à nouveau un truc Ils parlent de casseurs, de mouvance ultra-gauche, je sais pas quoi. Enfin voilà, tout leur petit délire.
Ça, je pense, ça concerne pas que cette histoire-là, mais comment on peut tout... À chaque fois, là, dans les histoires qu'on a racontées de répression, le discours policier ou moi, qui vient du procureur, enfin, ou qui vient directement du ministère de l'Intérieur, ça va être de construire des espèces de trucs que maintenant ils appellent mouvance, milieu, etc., où on confond affinité personnelle, lutte politique, espace de vie... Les étudiants de la fac sont des étudiants dans tel moule qui ont tel mode d'action qui est pas le bon, les mauvais syndicalistes qui sortent des appels nationaux, les personnes dont justement peut-être on fabrique une nouvelle identité politique de la mouvance anarchiste à Toulouse, etc. Donc vraiment comment on colle des étiquettes pour donner une cohérence, pour justifier qu'on arrête ces personnes-là, quoi. Leur démarche, le jour où ils arrêtent les personnes, et ce sur quoi ils s'appuient, c'est sur le fait que ces personnes-là se connaissent, elles ont des connivences personnelles, et que ça, en soi, c'est soupçonnable, et c'est louche, parce que c'est pas comme ça qu'on vit, quoi. Enfin...
Vous savez un peu le genre de choses qu'ils ont cherché et qu'ils ont embarqué pendant les perquis, hein ?
Ouais, mais le collectif, là, ça a permis de recenser un peu qu'est-ce qui s'était passé à tous ces endroits-là.
Évidemment, ordinateur, téléphone portable... Affiches, toutes les affiches en lien avec des luttes anticarcérales ou contre la répression, ce genre de trucs, des tracts, des brochures, des bouquins.
Tout ce qui ressemblait à une image de personnes qui s'intéressent à la politique, quoi. C'est-à-dire que les affiches, qu'elles aient 5 ans ou 6 mois, peu importe, ça, c'était comme vraiment fabriquer un portrait... idéologique des personnes qui avaient été visitées chez elles. Mmh. Et par ailleurs, le recensement un peu de qu'est-ce qu'ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils ont pris, ça montre aussi le fantasme, alors réel ou qu'ils voulaient fabriquer, de qui sont ces gens qu'on arrête. Parce qu'en plus de tous ces éléments-là, là, qui construiraient une identité politique figée, ils ont été jusqu'à fouiller dans les caisses à outils pour prendre les masques contre la poussière là, qu'on utilise quand on bricole. Des trucs inutilisés au milieu d'une caisse à outils qu'on met à côté d'une brochure et d'une affiche et puis qui construisent une figure encore plus violente, terrorisante. Après, ils ont pris des affiches humoristiques ou des espèces de messages que se laissent des gens et qui du coup avaient des tons de second degré et tout ça que je pense qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils les ont pris pour des espèces de codes bizarres ou secrets, quoi. Enfin, pour le coup, au milieu de tout ce qu'ils ont pris, il y a des choses, c'est hilarant aussi, quoi. Mmh.
Des vêtements hyper classe, mais qui sont noirs. Mais pourtant, des trucs hyper classe, quoi. Mais non, c'est noir, du coup.
Ces gens qui sont en prison, donc, rappelons-le encore une fois pour 3 tags et 2 sauts de caca, ils sont donc en préventive en attente d'un jugement qui va venir quand ?
Ben, on peut pas trop dater, parce que du coup, l'instruction est toujours en cours. Et du coup, en gros, il faut compter au moins un an. Selon les avocats, pour une instruction de ce type-là. Du coup, on espère bien qu'ils vont sortir bien avant leur procès, hein, évidemment.
Parce que, techniquement, ça se passe comment, ça ?
Ouais, normalement, c'est... en gros, la détention préventive, c'est 4 mois, mais renouvelable.
Quand les gens sont mis en détention préventive, c'est-à-dire sans aucun jugement, ils peuvent y rester jusqu'à la date de leur jugement, sauf sur demande des avocats qui ont différents recours pour demander leur libération. En amenant des éléments nouveaux. Par contre, parmi ces recours, à part l'appel qui peut être fait au tout début, c'est juste des demandes de remise en liberté qui sont systématiquement révisées par le même juge des libertés. L'idée autour de ce qui s'est passé, c'est d'en parler au maximum, notamment localement et dans la ville de Toulouse, quoi, que cette histoire, elle soit pas tue, elle soit pas cachée. Que bah justement, parmi tout ce qui s'est passé ces dernières années à Toulouse, là, c'est un pas de plus qu'ils font sur la répression et tenter de terroriser un petit peu tout le monde qui essaie de faire des choses collectivement et publiquement.
La liberté, partout, l'égalité, partout, fraternité, partout, solidarité, partout, et respect, partout.
Solidarité avec les inculpés de Toulouse. Libération immédiate, arrêt des poursuites. Le 5 juillet dernier, une dizaine de personnes ont pénétré dans les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'Abège, pour manifester contre l'incarcération des mineurs. Quatre mois plus tard, le 15 novembre, une centaine de gendarmes ont opéré à Toulouse des perquisitions et procédé à une dizaine d'interpellations dans sept lieux d'habitation.
Six personnes sont placées en garde à vue, et quatre d'entre elles sont depuis en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seyss. Une cinquième est sous contrôle judiciaire, et la sixième gardée sous le coude par la justice en tant que témoin assisté.
Que ces personnes soient impliquées ou non dans cette action n'a pas d'importance, tant il est juste d'avoir exprimé sa solidarité avec celles et ceux qui subissent la répression de manière brutale. Ici, les jeunes prisonniers de Lavore qui se sont mutinés en mai 2011. Quand l'État enferme pour quelques graffitis, il tente de terroriser ses détracteurs et toutes celles et ceux qui se risqueraient à quelques actions directes revendicatives.
L'époque résonne du bruit de bottes, omniprésence de flics et de militaires sur la voie publique, multiplication des fichiers, délation institutionnelle, interdiction, amende, en tout genre. La pression policière s'accentue sans cesse sur la population. Contrôle, surveillance, contraintes sont le lot quotidien de tout un chacun, particulièrement des plus pauvres.
Nous ne voulons pas de ce monde qui nous contrôle et nous emmure. Leurs matraques ne nous feront pas taire ni marcher d'un seul pas. Une semaine de mobilisation s'organise en solidarité avec les inculpés à partir du 10 décembre.
Et samedi 17 décembre, descendons en nombre dans la rue, rendez-vous à Jean Jaurès à 14h.
Là, au cours de ce petit entretien, vous vous êtes pas prononcé beaucoup sur le fait que, de savoir s'ils sont innocents ou ce qu'on leur reproche.
Ce qui est en jeu, je pense que c'est pas la question de savoir s'ils sont coupables ou innocents. C'est pas la question de savoir sur quels éléments juridiques et tout ça va se construire un dossier qui est forcément à charge contre eux, quoi. Mais de savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on veut porter un discours, notamment entre autres sur l'enfermement, de justement se retrouver enfermé directement pour qu'il ne se passe rien autour de ces questions-là, et que finalement l'enjeu et l'intérêt, c'est pas forcément de les défendre plus parce qu'ils sont coupables ou parce qu'ils sont innocents, mais n'importe qui à qui ça arrive, une histoire comme ça, il y a besoin de monde et de soutien. Autour.
Et maintenant, à vos stylos, pour envoyer des thunes, c'est à Canal Sud, la radio Canal Sud à Toulouse, donc Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Donc je répète, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Et autrement, il existe un blog de textes, infos et contacts qui s'appelle pourlaliberté.noblogs.org. Je répète encore, pourlaliberté.noblogs.org.
Alors, simplement, ce que je voulais rajouter, c'est que tous les inculpés ou ceux qui sont comme témoins assistés nient depuis le début toute participation à l'action de la Belge. Voilà. Donc, on va vous dire deux mots sur la manif qui a eu lieu samedi, dont on y est parlé. Les flics ont tout fait pour que la manifestation n'ait pas lieu. Alors, la manif était convoquée sur un lieu où il y a le marché de Noël. Donc, ça posait des problèmes aux flics. Les flics, au début, ont arrêté systématiquement toutes les personnes qui arrivaient, qui étaient repérées comme...
jeunes, par exemple.
Ou autres. Donc, pendant tout un moment, c'était empêcher à tout prix qu'une manifestation ait lieu, un rassemblement ait lieu. Les personnes, en fait, n'ont même pas interpellé, n'ont même pas été emmenées au commissariat ni quoi que ce soit. Elles ont été rapidement relâchées. Et donc, après plusieurs tentatives de sortir et de pouvoir se déployer, donc ils ont réussi à traverser les cordons de flics qui étaient très nombreux et donc à se regrouper place du Capitole où ils ont fait des distributions de tracts, poser des banderoles, etc.
Alors, je crois qu'on a d'autres choses à ajouter, en particulier cette histoire de merde. Je crois que...
Oui, cette histoire de merde, c'est une grande, c'est, je vais pas dire une tradition, mais en tout cas dans les luttes en général, il y a souvent des confrontations avec l'État, avec le pouvoir, avec de la merde, il faut le dire. Les champions de toute catégorie, les champions olympiques de cette pratique, on peut dire c'est les pécores, c'est les agriculteurs qui et les éleveurs qui pendant de nombreuses années, on déversait des tonnes et des tonnes de purins ou de lisiers devant les préfectures, par exemple. Mais plus récemment, dans la lutte anti-TGV, par exemple, nous avons eu l'occasion de participer à l'occupation d'une banque avec le mouvement anti-TGV du Pays Basque. Et on avait occupé une banque à Pamplune et on avait déversé des seaux. Non, des sacs de merde de brebis, effectivement, c'était une action éclair, parce que là, c'était extrêmement tendu, vu qu'il y avait la fameuse politique basque, la fameuse police basque, la police cagoulée, là. Donc voilà, ça se fait. Ça s'est fait également dans la région Champagne-Ardenne, vis-à-vis des nucléocrates qui faisaient des conférences de promotion de leur industrie mortifère.
Ouais, je crois que c'est l'Andra qui faisait sa pub à Épernay.
C'était l'Andra qui faisait une conférence à Épernay et ces pauvres conférenciers se sont retrouvés déguisés avec une bombe à merde sur leurs instruments de propagande. Et en plus, l'action avait été revendiquée et d'ailleurs une bonne partie de la salle de l'assistance avait applaudi. Et plus récemment, à Reims, cette fois, c'était une campagne de pub sur les déchets nucléaires qui avait été également attaquée. Donc ceci pour dire que c'est une pratique extrêmement courante.
Même dans les luttes ouvrières, puisque on s'en souvient des Où Mont-Saint. C'est Mont-Saint-Martin, il me semble.
C'est ça, Mont-Saint-Martin. Où ils
avaient déversé des seaux de purin sur les représentants de la société, des syndicalistes qui avaient fait ça.
Voilà, donc on voit pas pourquoi... On a du mal à saisir l'hystérie judiciaire et policière par rapport à cette action.
Je crois qu'on n'a aucun mal à saisir leur hystérie en réalité. Hein,
ouais.
parce que faut savoir à quoi on s'attaque. Je pense quand même que c'est un domaine ultra sensible. Mmh. Hein. Alors, d'une part, il s'agit de jeunes, et ensuite, il s'agit d'enfermement et d'incarcération. Donc ça, c'est vraiment le domaine sur lequel ils ne veulent pas qu'on s'aventure. Hein. Ils ont redit, là, dans l'émission qu'on vient d'écouter, que les EPM ont été pondus, ont vu le jour en 2006 et mis en œuvre en 2007. Il faut se rappeler quand même du contexte, les lois Perben 1 et 2, hein, sur lesquelles on pourrait peut-être revenir un peu plus en détail pour dire à quoi ça faisait référence. Mais surtout, je rappelle que au même moment, nous étions confrontés à la fameuse loi, au projet de loi de prévention de la délinquance, qui était testé sur 24 sites, expérimentaux,
hein,
qui ne ciblaient que des zones géographiques sur le territoire français très défavorisées, extrêmement défavorisées, et qui tendaient à faire l'amalgame entre problèmes sociaux et délinquance. D'accord ? C'est le moment de l'avènement de la vidéosurveillance. C'est le moment de l'avènement des chefs d'inculpation sur lesquels les copains là sont inculpés, enfin on dit plus ça mais je m'en fiche, inculpés et mis en prison là en détention provisoire, c'est-à-dire action en réunion, tous ces chefs d'inculpation là apparaissent à cette période là. Et les EPM, donc établissements pénitentiaires pour mineurs aussi. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement de réhabiliter les maisons de correction qui avaient pourtant été fermées dans les années, si je ne me trompe pas, 60 ou 70.
C'est ça.
Parce que c'était un constat calamiteux. Hein, les maisons de correction, les lieux d'enfermement pour mineurs étaient des lieux qui ont été quand même repérés et dénoncés comme étant extrêmement violents, contre-productifs au possible, et donc ça a été fermé.
Tu dis violent, c'est contre
violent les... Violent contre les jeunes, hein, bien les entendu, jeunes. Parce que c'est un lieu qui produit en soi, évidemment, tout lieu d'enfermement d'ailleurs, produit en soi de la violence, et donc c'est une violence qui ne peut que se tourner et être en direction des gens qui sont enfermés. Hein. Et s'il y a des réactions violentes de leur part, ça n'est que par, ce n'est que par instinct de survie, je dirais. Bon, voilà, donc ce sont des lieux qui avaient été fermés et que le gouvernement de l'époque, les politiciens de l'époque d'ailleurs, parce que c'est pas le seul gouvernement de l'époque qui est en cause, hein, c'est toute une idéologie politicienne, le retour à l'enfermement, le retour à la tolérance zéro dont on a aussi abondamment parlé, eh ben, ça réapparaît en 2006 et ça se met en place. Et ce qui est arrivé là aux personnes qui sont actuellement enfermées, c'est qu'un exemple de ça, c'est-à-dire de ce retour à tout crin, de la tolérance zéro, de l'enfermement à tout prix, et surtout, alors là, il s'agit absolument pas de tolérer qu'il y ait la moindre critique qui soit émise par rapport à ce genre de lieu.
Tout à fait. Alors, je crois qu'il y a eu du nouveau, puisque dans l'émission qu'on a entendue, là, de Radio Canu, la jeune fille parle de l'instauration, peut-être, de l'encadrement militaire. Bah, c'est fait. Hein, le Parlement vient d'adopter l'instauration de l'encadrement militaire des mineurs délinquants. C'était une proposition de loi, d'ailleurs, d'un député réac, comme c'est pas permis, de Nice, le fameux Éric Ciotti. Eh bien voilà, c'est passé. Ce qui veut dire que des mineurs de plus de 16 ans, s'ils l'acceptent ou s'ils sont contraints, pourront faire un service citoyen, entendez bien le terme, citoyen, d'une durée de 6 à 12 mois au sein d'un établissement public d'insertion de la défense, les fameuses EPID. Ça commence bientôt, en février 2012. Ce dispositif, d'ailleurs, sera déployé dans 12 centres EPID, puis dans 3 autres ensuite d'ici juin. Alors, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle un peu des EPID, puisque c'est quand même des choses qui, là aussi, sont assez symptomatiques de la période. Hein. Ce sont donc des établissements publics. Il y en a une vingtaine en France. Dans notre région, Champagne-Ardenne, il y en a un à Langres. Il y a au minimum une quinzaine de jeunes de 18 ans à... Là, ça va s'ouvrir aux mineurs. Mais jusqu'à maintenant, c'était de 18 ans à 25 ans qui étaient là pour... Ces EPID avaient pour mission d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en échec scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation et volontaire au terme d'un projet éducatif global. Voilà, alors il y a toujours une formation dispensée, contribuant à une insertion durable, c'est ce que dit la propagande. En fait, on s'aperçoit que ces EPID sont un réservoir pour la sécurité, pour les entreprises de sécurité, et tous les jeunes mâles qui sont là-dedans se retrouvent effectivement après. Ils ont des emplois de merde, bien évidemment, payés des cacahuètes, mais dans quoi ? Eh bien, dans le sécuritaire. Et oui, ils sont formés donc dans ces EPID. Il y en a une vingtaine en France, et ces EPID vont donc s'ouvrir aux mineurs de 16 à 18 ans.
Moi, je voudrais faire un petit crochet du côté des éducateurs de la PJJ, qui donc pleuraient parce que leurs conditions de travail sont difficiles, et c'est vrai, parce que eux aussi sont enfermés. Et pourquoi ils sont enfermés ? Ben parce que pour certains éducateurs, le métier, comment on dit quand on a la fibre là, le mot m'échappe.
Humanitaire ?
Non, quand on a la fibre pour un métier, tu sais...
La vocation.
Oui, la vocation se résume à faire du rappel à la loi. Ça s'appelle être collabo, ça. Voilà. Ce sont des petits collaborateurs, des petits auxiliaires de police et de matonnerie. Ça se résume à ça.
Tout à fait. Alors, je crois qu'aussi, avant de faire une pause musicale, je voudrais dire aussi que il y a eu, je suis tombé sur un truc, une déclaration du futur ministre de l'Intérieur, Parti Socialiste, si François Hollande passe, c'est le maire socialiste de Dijon, un certain François Rebsamen, qui est d'ailleurs le seul habilité à parler au nom du candidat Hollande sur les questions de sécurité, et qui vient de déclarer au sujet de la délinquance des mineurs que c'est peut-être l'occasion de tendre la main à la droite après une éventuelle arrivée au pouvoir, car l'unité républicaine est menacée par une frange de la jeunesse délinquante. Voilà. Clairement, ce que ce mec dit avant les élections. Avant les élections. Voilà. Je vous rappellerai aussi qu'une certaine Ségolène Royal était aussi pour qu'on enferme les délinquants dans un encadrement militaire. Allez, on fait une pause musicale.
Oui, alors la semaine dernière, on était avec Mickaël de l'Assemblée anti-TGV du Pays Basque, qui nous a brossé un peu l'historique du mouvement et la situation dans laquelle on se trouvait actuellement. Et là, je vais vous parler aujourd'hui parce que au même moment, en fait, il y a eu une mobilisation de nouveau dans le Val Souza. C'était le 8 décembre dernier. Donc, il y a eu une très forte mobilisation. L'objectif pour les notaves, l'assemblée anti-tave du Val de Souza, était de bloquer le chantier.
TAV, dans... c'est train alta velocitat.
Oui.
Donc train à haute vitesse.
Voilà.
La traduction.
C'était de bloquer le chantier, de faire un maximum de brèches dans cette enceinte militarisée, fortement occupée. Donc il y a eu plusieurs cortèges. Un cortège qui a bloqué l'autoroute. Un deuxième cortège qui est parti de la petite ville de Chiomonte, donc et qui s'est dirigé vers l'entrée de la Madeleine. Maintenant, tous les auditeurs de l'Égrégore se connaissent un peu le panorama l'entrée de la Madeleine, c'est en fait une ancienne centrale hydroélectrique, Et le troisième cortège partait du Val de Clarea, donc à Giaglione. Donc en direction d'une vallée exposée nord où il y a une châtaigneraie et en direction d'une maison qui a été construite par les notables sur un terrain qui a été acheté avec la tactique où en fait on achète un terrain des centaines, des milliers de parts. Et là, il y a une maison qui a été construite. Ça s'appelle la Baïta. C'est un lieu de rencontres réguliers. Toutes les semaines, il y a le mouvement qui se rencontre là, qui fait des assemblées et qui maintient un contre-pouvoir face à l'occupation militaire. Donc là, il y avait ce mouvement qui a réussi à bloquer l'autoroute dès 12h30, donc dès le milieu de la journée, jusque très tard dans la nuit. Les forces de armées, je dis bien armées parce qu'il y a non seulement la police, je vous l'ai déjà expliqué, il y a aussi des forces armées, dont des anciens qui viennent d'Afghanistan, ont essayé de nettoyer la vallée avec des pluies, des averses de grenades en tout genre, lacrymogènes évidemment, mais d'autres types de grenades incapacitantes. Et ils ont réussi à mettre le feu un peu à la châtaigneraie. Voilà, donc ambiance. Il y a eu au moins une quinzaine de blessés parmi les manifestants. Quoi d'autre? Il y a des gens qui ont été blessés à bout portant, hein, avec des tirs tendus à bout portant. Mais bon, apparemment, les gens continuent, la mobilisation continue, puisque ça a duré très tard dans la nuit. Une des banderoles du mouvement sur l'autoroute, c'était « Dobbiamo fermarli il loro debito, non lo paghiamo ». Alors ça signifie, c'est sans doute très mal prononcé, mais ça signifie « nous devons les arrêter, leur dette, nous ne la paierons pas ». Donc évidemment, le mouvement met l'accent sur le coût financier absolument faramineux. Ceci dit, même si c'était gratos, on s'opposerait à ce genre de conneries, hein, de tyrannie de la vitesse. Mais quand même, là, ce genre de conneries coûte la bagatelle de... Alors je pourrais vous faire un exposé sur l'évolution des tarifs, les estimations du réseau ferré, les estimations du partie française, la partie qui serait payée par l'Europe. Mais aujourd'hui, on passe à une estimation qui irait de 25 milliards à 50 milliards, dont 20 milliards proprement dit pour le tunnel. Donc rappelons-le, pour un tunnel de 50 km qui doit passer sous la montagne, sous les Alpes, donc entre la vallée de la Maurienne et Val de Souza en direction de Turin. Donc voilà, c'est donc évidemment les gens, le mouvement dénonce cette débilité, mais il faut souligner qu'il est financé aussi par l'Europe, hein, l'État français le finance parce qu'il veut envoyer sa machine et vendre son électricité, n'est-ce pas? Puisque le TGV français traverserait ce tunnel et irriguerait, hein, en quelque sorte, la péninsule italienne. et l'électricité évidemment alimenterait celui-ci, quoi. Donc c'est toute une logique industrielle et une logique de destruction non seulement d'un territoire où il y a une population qui a des activités et qui en a, c'est pas d'aujourd'hui, qui en a depuis plusieurs dizaines d'années marre de la destruction de son milieu de vie, quoi, et qui voudrait mettre en place d'autres modes sans doute d'existence, quoi. Alors il y a eu une nouvelle mobilisation le 12, alors cette fois c'est en France, c'était une mobilisation à Toulon contre les grands projets inutiles et ruineux, et là il y a eu 4000 personnes, c'était probablement à la suite à l'occasion du passage du
Roitelet,
et donc là il y avait des gens de l'Aquitaine qui étaient présents, des gens des opposants au TGV du Pays Basque et sans doute des gens du Val de Souza aussi qui étaient présents pour dénoncer ces projets. Donc 4000 personnes à Toulon, c'est quand même pas mal. Et le 16, donc le 16 c'était récemment, c'était samedi ou dimanche ça ?
Non, c'était vendredi.
C'était vendredi dernier, le 16, de nouveau à Val-de-Souza, une nouvelle marche de nuit contre le Lyon-Turin. Donc dans le Val de Claria, autour de cette enceinte. Donc rappelons-le encore une fois, le chantier n'existe pas, le chantier n'est absolument pas en activité, mais il y a des forces policières et militaires absolument colossales qui coûtent la bagatelle de 90 000 euros par jour, puisqu'il y a environ 500 policiers sur place qui protègent les ouvriers, et il y a des corps spéciaux de l'armée.
Qui protègent quels ouvriers ?
Ben apparemment, il y a des gens qui réparent les clôtures, je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de failles dans les clôtures qu'il faut les réparer. Donc il faut des gens pour les protéger. Voilà, c'est un peu bref, mais je vais pas. Je pense qu'on a peut-être d'autres choses à aborder. Je pourrais faire un aperçu de l'estimation des coûts, mais on prendra peut-être plus de temps une autre fois.
Peut-être que tu viens d'arriver dans le studio, tu as peut-être des choses à nous dire.
Ben, je suis arrivé en retard, donc j'ai pas entendu le début, mais j'en profite pour dire, puisque notre émission est rediffusée à Toulouse, j'en profite pour saluer les Toulousains, les Toulousaines que je connais, puis ceux qui écoutent de l'autre côté du mur, quoi. Voilà, on pense à eux vachement fort et on les oublie pas. Moi, je voulais souligner que, je sais pas si vous avez fait un lien avec la répression qui se passe, puisqu'il y a un nouveau pic de répression autour justement de ce délire de mouvance tel qu'il est créé par le pouvoir depuis quelques années, puisque la semaine dernière, il y a 15 jours à Nantes, il y a des gens qui ont été arrêtés, donc des gens qui sont très très impliqués dans la lutte contre l'aéroport.
Ouais. Oui, on en avait parlé.
D'accord.
Ouais.
Et puis au mois de janvier, après des années et des mois de procédures, les personnes qui avaient été arrêtées autour de Vincennes à l'occasion des révoltes qu'il y avait eu dans le centre de rétention, qui s'étaient fait prendre avec des fumigènes, et d'autres personnes qui avaient tagué des messages de solidarité, et encore d'autres personnes dont des traces d'ADN auraient été retrouvées sur une dépanneuse de la police, voient tout leur dossier joint, mis ensemble pour une magnifique association de malfaiteurs. Ils passeront à partir du 6 janvier et ça reste encore à déterminer, j'ai pas tous les détails, mais il y a à craindre que il puisse y avoir des qualifications de terroristes, quoi. Donc ça craint, il y a visiblement l'État qui se garde un petit truc sous le coude, quoi, pour éventuellement avoir un baratin à raconter lors des élections. Bon, donc il faut suivre ça et il faut absolument qu'on réussisse à faire de la solidarité quelque chose qui soit pas isolé, pas qu'on rentre dans un corps à corps avec l'État et les flics, parce qu'on s'en sortira pas, quoi. Ils sont clairement plus forts que nous sur tous les plans, quoi. Mais il faut qu'on arrive à engranger, à déclencher de de par la solidarité et la lutte contre la répression, quelque chose qui soit encore plus fort, quoi. La manifestation qui a été faite à Toulouse la semaine dernière en solidarité avec les copains, de ce point de vue-là, elle a bien, je pense, quand même marqué le coup, et j'espère qu'elle est le début d'actions de solidarité, puis de moments de solidarité qui sont répétés, puisque, excusez-moi pour la redite, mais la lutte des mineurs de l'EPM de Lavore, c'est pas quelque chose, et la lutte contre les EPM, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, quoi. C'est quelque chose qui a constamment été, depuis la création des EPM, des mutineries qu'il y a eu dans les EPM, plus spécifiquement sud de Lavore, mais aussi sud d'Orvault, il y a toujours eu des gens qui se sont battus contre ça, avec un discours et avec un questionnement, quoi. C'est pas des choses qui arrivent comme ça, des choses qui font partie du mouvement social, qui ont vocation à être dedans et qui posent des questions, quoi. Donc voilà.
Oui, je voulais dire aussi, de temps en temps, il y a une action de sabotage qui fonctionne, et pour l'instant, il n'y a pas de personnes arrêtées. Il s'agit de Marseille, alors c'est contre les caméras de surveillance. La municipalité de Marseille a un énorme programme, puisque elle a 42 nouvelles caméras de ce mois-ci. Il y en a 340 qui sont prévues en 2012 dans le centre-ville. Et finalement, eh bien, fin novembre, il y a 5 mâts destinés à recevoir ces futures caméras qui ont été décelées et qui ont été jetées à terre. Voilà une bonne nouvelle de sabotage.
C'est le Mistral. Mistral gagnant.
On a des choses encore à dire peut-être, je ne sais pas, allez-y, je crois qu'il nous reste 2 minutes. Oui, alors justement, peut-être, j'ai une nouvelle à dire à Camille.
Ah oui, j'oubliais parce que on oublie l'actualité rémoise. Vous savez que il y a quelques mois, il existait sur la toile un site qui parodiait le journal local L'Union, ça s'appelle L'Oignon. Il y a une personne qui s'est fait arrêter par les gendarmes qui ont saisi son matériel. Il y avait un article absolument dégueulasse du chef de l'Union, Jacques Tillier, qui c'est lui qui avait porté plainte.
Oui, ça n'a rien d'étonnant.
Voilà.
Ça n'a rien d'étonnant.
Et donc. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le temps de sortir ce que nous a fait parvenir la personne qui s'est fait interpeller.
Je crois que la semaine prochaine, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être que dans 15 jours on en parlera, voilà, parce que c'est quand même important au niveau rémois.
Hein. Ouais. Donc, si vous n'avez pas lu l'article de l'Union, ben ne le lisez pas, vous allez le voir parce que vous ferez une idée de ce que c'est réellement ce personnage, Jacques Tillier, quoi.
Oui, qui a fricoté longtemps avec l'extrême droite, entre autres. Bon, et qui a amené dans sa musette un certain nombre de gens de l'île de la Réunion qui travaillaient. On en avait parlé d'ailleurs à cette antenne. Hein. Nous, on a eu la chance de pas avoir les foudres de guerre de l'Union. Faut dire que bon, on l'a même publié dans le Chat Noir. Hein. C'est cette histoire du journal L'Union et de ces carterons, de ce carteron. Venant de l'île de la Réunion, d'un journal de la Réunion d'ailleurs, qui s'appelle le journal de la Réunion, qui s'est fait embaucher par le groupe Hersant, enfin qui faisait déjà partie du groupe Hersant, puisque ce journal de la Réunion, et c'est vraiment des gens qui, bon, n'ont rien à voir avec au niveau de la déontologie du journalisme, c'est quelque chose, hein, vraiment, ça vaut son pesant de cacahuète. Hein.
Alors d'après ce qu'on sait, c'est que Jacques Tillier, son licenciement, en cours de licenciement de l'Union, on espère que son carton qu'il suivait, il sera aussi. Bon, voilà.
Oui, enfin bon, faut pas ça d'illusion, il va se faire licencier, avoir une belle.
Ceci dit, l'Union et l'Ardennais n'avaient pas besoin de ces lascars-là pour proférer leur première page telle minute, hein, parce qu'ils étaient quand même assez doués auparavant.
Assez doués auparavant, tout à fait. C'est historique au niveau de ce type de presse.
Les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les manques vives. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. C'est une logique de la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme. C'est la forme actuelle et en perspective de la domination.
l'évolution du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous...
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. C'était donc les Grégory, une barre anarchiste communiste, chaque semaine chez Nicolas Garrigue, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive.